C'était David Bowie, Fame 90s. Bonjour, bonjour et bienvenue sur RDWA, rdwa.fr, 107.5 FM. Je suis Étienne et vous écoutez une nouvelle émission dédiée au 7e art et qui s'appelle Cinéma Cinéma.
Cinéma, cinéma de Saint-Antoine, film en film, je t'ai donné mon existence. Cinéma, cinéma.
Une nouvelle émission donc dans laquelle je reviendrai à chaque numéro soit sur la carrière d'un réalisateur, soit sur un genre cinématographique particulier. J'essaierai de m'adapter à l'actualité cinématographique du moment, qu'il s'agisse de sorties, de festivals ou d'événements marquants. Mais pour cette première, et comme je suis quelqu'un de terriblement égoïste, j'ai décidé de m'accorder un petit plaisir et de vous parler du cinéaste qui m'a donné envie, il y a quelques années maintenant, de m'intéresser au cinéma et de réaliser à mon tour des films. De Zone Sante, puisque c'est lui dont je vais vous parler, a réalisé le clip de Fame 90s de David Bowie. Il est photographe, musicien et donc réalisateur de cinéma. Il réalise un premier court-métrage remarqué en 1978, The Discipline of D.E., inspiré d'une nouvelle de William Burroughs. Ce premier film, qui est trouvable assez facilement sur Internet, n'est à mon sens pas forcément marquant, mais il n'est pas non plus anecdotique. Van Sant y annonce sa fascination et l'influence qu'a entre autres Burroughs sur son propre travail. L'écrivain reviendra s'insinuer dans les films de Van Sant, parfois dans les thèmes, d'autres fois directement comme comédien, et même jusque dans la forme, dans le montage de certains films qui rappelleront la technique du cut-up que Burroughs avait expérimenté et qui consistait à écrire, puis découper, littéralement et avec une paire de ciseaux, le script pour mélanger les segments de phrases et construire un nouveau texte. Et on est bien là dans ce qui fait l'essence du cinéma de Gus Van Sant. Un cinéma de l'emprunt et du collage, un cinéma qui va piquer chez d'autres réalisateurs, reproduire des séquences, emprunter des passages de texte chez des auteurs, des cinéastes, des dramaturges. Van Sant ne fait pas que s'inspirer, comme le font tous les cinéastes. Non, il va prendre directement ce qui est beau chez les autres, persuadé que ça le sera également chez lui. Et en plus, ça marche. Cette technique d'emprunt assumé et poussé à l'extrême, nous la retrouvons dès 1991. My Own Private Idaho est le troisième long-métrage de Gus Van Sant. River Phoenix y campe un toxicomane narcoleptique à la recherche de sa mère. Keanu Reeves, qui sera plus tard la star entre autres de la saga Matrix, est un de ses compagnons. Les deux font partie d'une bande de marginaux vivant à Portland et dirigée par Bob, sorte de père spirituel prince des voleurs. Le film est signé Gus Van Sant. Le scénario porte quant à lui une seconde signature, et pas des moindres, celle de William Shakespeare. En effet, le personnage de Scott, donc Keanu Reeves, est directement inspiré des Henry de Shakespeare. Il est le fils du maire de la ville et décide de vivre dans les bas-fonds avec Mike en vagabond toxicomane et de se prostituer pour vivre. Il n'en faut pas plus pour qu'à son tour, le personnage de Bob se révèle être en fait le Falstaff de Shakespeare, transposé dans le Portland des années 90. Van Sant assume cette influence. Il l'assume et la revendique au point de reprendre le texte de Shakespeare mot pour mot lorsque ses personnages sont en action. Et comme si cela ne suffisait pas, il va aller copier un autre de ses modèles, le grand Orson Welles, réalisateur de Citizen Kane, de l'adaptation du procès de Kafka, mais aussi d'un film sur le personnage shakespearien de Falstaff.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Le plagiat induirait que Van Sant n'assume pas et se cache. Or, Van Sant assume. Il assume au point de reproduire, à l'identique, plusieurs séquences du Falstaff d'Orson Welles. Le choix des focales, le montage, le dialogue, tout dans ces séquences cite directement Welles et par extension Shakespeare. Ce principe d'imitation, Gus Van Sant va le pousser plus loin un peu plus tard. En 1998, le réalisateur n'est plus vraiment le cinéaste indépendant de ses débuts. Il est passé par Hollywood, a tourné des films beaucoup plus mainstream, a collectionné les récompenses, notamment avec son film Will Hunting, récompensé par 9 nominations et 2 statuettes aux Oscars de 1998. Mais revenons à Psycho et à cette notion de citation, de copie si chère à Van Sant. Psycho est un film particulier, sans nul doute le film qui a le moins d'intérêt pour le spectateur dans toute la filmographie de Van Sant. Mais également peut-être le film le plus important pour la carrière du réalisateur. Sorte d'accomplissement d'une quête de 15 ans qui va lui permettre ensuite de s'affirmer comme un cinéaste à mon sens génial. Pourquoi ? Parce que depuis ses débuts, Van Sant copie, imite, cite, dans le but de comprendre ce qui marche chez les autres. Dans l'idée de reproduire ce qui est beau, ce qu'il aime. On l'a vu à travers l'exemple de My Own Private Idaho, pour Psycho, il va pousser ce principe à l'extrême. Psycho, c'est le Psychose d'Alfred Hitchcock. Plan par plan, image par image, réplique par réplique. Une copie conforme, en tout cas formelle, d'un classique qui le fascine. Et donc un film sans intérêt. Si vous avez vu celui d'Hitchcock, celui-ci est le même, la substance en moins. Si vous n'avez pas vu celui d'Hitchcock, par pitié, ne regardez pas celui-là et allez à la médiathèque emprunter l'original. Mais par ce geste particulier, qu'il a pu financer une fois sa renommée assurée à Hollywood et après ses deux Oscars, et une fois les coups des franches, Van Sant s'affranchit de ses modèles. Il est allé au bout d'un processus qui l'obsédait jusqu'à présent, et la suite de sa carrière sera beaucoup moins marquée par ce principe de copie, même si la citation sera toujours là. Surtout, il va commencer à se citer lui-même de film en film, développant une manière de filmer aujourd'hui reconnaissable entre mille, et qui va le conduire à ses plus beaux films, dont Elephant, mais également Jerry, Last Days, qui complète une trilogie basée sur des faits divers. Enfin et surtout, Paranoid Park, à mon sens son plus beau film, le plus juste, le plus sensible. Le dénominateur commun à ces quatre films, c'est cette façon particulière qu'a Van Sant de filmer les adolescents ou les jeunes adultes, cette caméra qui se place 3-4 mètres derrière le sujet et qu'il suit dans le dédale de leur environnement, que cela soit le lycée d'Elephant, le désert de Jerry, une grande maison incroyablement morte malgré ses innombrables occupants dans Last Days, et Portland, la propre ville de Van Sant dans Paranoid Park. Van Sant crée son style, fait de longs travelling, des gros plans où le visage de ses personnages inonde le cadre, filmé avec de très longues focales, réduisant la profondeur de champ à peau de chagrin, un chagrin qui transparaît dans les regards, souvent ailleurs. Il laisse les plans durer, coupe de moins en moins, et il référence ses images, encore et toujours. On retrouve ici et là du Bellatar dans Jerry, Alan Clarke et son court-métrage Elephant dans Le Long de Van Sant, et d'autres choses ici et là posées plus ou moins subtilement. Van Sant s'invente, enfin, en laissant à ses comédiens une liberté d'improvisation et de proposition plus grande que la moyenne. Ces moments improvisés, de par leur nature imprévue, donnent souvent toute leur dimension au film. Le plus bel exemple étant peut-être celui d'Elephant, lorsqu'Alex joue la lettre à Elise de Beethoven dans sa chambre, juste avant de commettre un massacre au sein de son lycée. Imprévu, cette interprétation de la célèbre pièce musicale par le comédien Alex Frost va porter le film au-delà de cette séquence, devenant la musique d'ouverture de ce drame froid et sanglant.
Thank you.
toujours sur RDWA, rdwa.fr 107.5 FM, pour ce premier numéro de Cinéma Cinéma. Cette lettre à Élise, improvisée par Alex Frost dans Elephant, n'est pas, loin de là, le seul moment où Gus Van Sant autorise le film à se construire lui-même au gré du hasard. Cette façon de faire devient un principe fondamental dans la troisième partie de la carrière du réalisateur. Les deux premières étant l'avant Hollywood, puis la partie la moins intéressante, à mon sens, au sein de la grande industrie du film californienne. À partir de Jerry et jusqu'à Paranoid Park, l'improvisation est l'un des principaux axes de travail. Prenons l'exemple particulier de Last Days, puisqu'il cristallise à lui seul cette envie de laisser le film se construire. Last Days est un film qui raconte les trois derniers jours de la vie d'une rockstar, de son évasion d'une clinique de désintoxication à sa mort. Comme stipulé dès l'ouverture, le film est inspiré des derniers jours de la vie de Kurt Cobain, mais reste une œuvre purement fictionnelle. Dans ce film, et j'en parle avec d'autant plus de passion que c'est celui-ci en particulier qui m'a donné envie de devenir moi-même réalisateur, n'en déplaise à ma copine de l'époque qui m'a ensuite interdit de choisir le moindre film pour nos sorties ciné, tout est affaire d'improvisation, ou presque. Le film est construit sans scénario, ce qui n'est absolument pas extraordinaire ni novateur, mais qui témoigne d'une envie particulière de cinéma. Van Sant sait juste qu'il va tourner 3 semaines dans une maison avec un comédien, Michael Pitt, qui interprétera le rôle de la rockstar en pleine descente. Van Sant souhaite un rocker ténébreux, torturé, brun, aux cheveux ras. Michael Pitt insiste pour ressembler physiquement à Kurt Cobain, qui a inspiré l'idée du film. Van Sant accepte, et Blake, le nom de ce Kurt Cobain de substitution, se retrouve donc affublé de longs cheveux blonds, d'une mèche qui vient régulièrement barrer son visage et qui participe à la construction de ce personnage, magnifié par une séquence où il écrit une lettre d'adieu, la caméra tournant autour de lui, cherchant à le trouver derrière cette mèche. Une parenthèse et un détail d'ailleurs, le personnage s'appelle Blake, ce qui pour le coup n'a absolument rien d'improvisé, ce nom étant fortement connoté à la fois dans la littérature anglo-saxonne et par extension dans le cinéma. C'est par exemple le nom de Johnny Depp dans le film Dead Man de Jim Jarmusch, un nom qui renvoie directement à William Blake, poète anglais, auteur du Mariage, du Ciel et de l'Enfer. Van Sant choisit ce nom pour une raison précise. En appelant son personnage Blake, il en fait, comme chez Jarmusch, un personnage condamné.
I'm not dead.
What name were you given at birth, stupid white man?
Blake. William Blake.
Je ferme la parenthèse et je reviens à l'improvisation et à Last Days. Tout ou presque dans le film n'est que succession d'improvisations. La plupart des personnages présents à l'écran n'étaient pas prévus. Par exemple, le représentant des pages jaunes ou les deux jumeaux témoins de Jéhovah offrent tour à tour des séquences d'anthologie entre un Blake totalement absent, quoique ouvert à la discussion, et des interlocuteurs passionnés.
How are you, sir? Thaddeus Thomas from Yellow Pages.
Oui.
Thaddeus Thomas from the Yellow Pages. Just want to make sure that you're represented in a book, which will be coming out shortly.
Eh bien, ces personnages sont en réalité de vrais représentants et témoins de Jéhovah qui sont passés sur les lieux du tournage, pensant trouver une maison réellement habitée, et qui ont accepté de jouer leur propre rôle. Et c'est là que le cinéma devient incroyable, lorsqu'il se nourrit de la réalité, lorsqu'elle vient l'inonder, ne plus laisser le choix. Michael Pitt joue son rôle de Blake, mais presque plus. Le rôle l'habite entièrement, et ses interlocuteurs, eux, ne jouent pas. Van Sant n'a plus qu'à chercher son cadre et laisser son film naître sous ses yeux. Il n'y a presque aucune coupe au sein des séquences dans ce film, et c'est précisément pour cette raison. Au cinéma, d'habitude, on découpe, on fait des plans larges, des plans serrés, on répète les prises, on recommence sous un autre angle. Mais cela n'est possible que dans une machine bien huilée où chacun connaît son texte, où les choses sont posées sur le papier. Van Sant choisit, lui, un autre chemin et nous propose autre chose. À moi, ça me parle plus. J'adore ce cinéma de l'accident. Je l'aime plus que tout, justement, parce qu'il est imprévisible, parce que tout n'y est pas tissé en sous-main par des concepts de scénariste ou de réalisateur, parce qu'on ne peut se douter de ce qui va se passer ensuite, et qu'on a encore la chance de se faire surprendre, de se faire prendre à contre-pied. Van Sant lui-même a une belle formule pour parler de ses processus particuliers de création. J'ai envie de faire désormais des films dans mon garage. Dans leur livre consacré au réalisateur et paru sous le titre Gus Van Sant, édité par les Cahiers du Cinéma, Stéphane Bouquet et Jean-Marc Lalanne reviennent sur ce mode de fonctionnement. Van Sant cherche à fuir Hollywood, ses contraintes de production, ses cahiers des charges lourds. Ce qu'il souhaite à présent est ailleurs. Il veut faire des films comme un musicien fait de la musique, c'est-à-dire tourner des choses comme on enregistre, en se fiant à la fois à une esquisse de partition préétablie, c'est-à-dire une idée d'histoire, mais surtout à son intuition et à l'improvisation. Et ensuite, plus tard, quand vient le temps du montage, comme quand vient le temps du mixage et de l'arrangement pour un musicien, construire le film. Avec Jerry, Elephant, Last Days et Paranoid Park, le cinéma de Van Sant devient un cinéma qui s'écrit au moins autant sinon plus au montage qu'au scénario, à partir d'un matériau brut filmé et enregistré. Dès cet instant, Van Sant peut construire ses films de manière labyrinthique. Le montage n'est plus linéaire mais se construit autour d'impressions. Le son se décale de l'image et fait naître d'autres choses, plus loin, ailleurs. Il nous amène à nous demander si ce que l'on voit à l'écran est réellement l'histoire ou si c'est autre chose. Par exemple, prenons Paranoid Park. L'histoire est celle d'Alex, un ado qui aime le skateboard et qui, un soir, par accident, tue un agent des chemins de fer. Un peu plus tard, il est interrogé, comme tous les skateurs de son lycée, par l'agent de police en charge de l'affaire. Van Sant nous propose un plan qui s'approche lentement du visage d'Alex, pendant que l'enquêteur lui parle. Alex est muet. La caméra s'approche, s'approche encore, de plus en plus près. L'enquêteur finit par poser une question. Alex répond. Yes. Et une fraction de seconde après ce yes, le plan est coupé et nous offre le contre-champ sur l'enquêteur, surpris. Surpris de quoi ? Revoyons la scène. Alex répond. On entend clairement la réponse. En revanche, ses lèvres ne bougent pas. À aucun moment. L'a-t-il dit ? L'a-t-il pensé ? L'enquêteur l'a-t-il entendu ? Cet élément vient semer le trouble sur la personnalité d'Alex. Et tout cela se construit uniquement sur un artifice de montage. Certainement imprévu, accidentel, un de ces petits instants qui vient s'offrir et s'imposer comme une évidence au bout de longues heures en salle de montage, peut-être même après une erreur de manipulation. Ce qui fera dire à Lalanne et Bouquet, et je ne peux qu'être d'accord avec eux, que dans le cinéma de Gus Van Sant, et par extension tout un pan du cinéma indépendant, le montage, le mixage, deviennent des moments décisifs où s'invente la forme du film. Cette liberté, cette possibilité d'essayer, de bricoler, de tenter des choses, trouve son origine dans l'économie de ces films. L'erreur que commettent beaucoup de cinéastes est de ne pas évaluer dans quelle économie ils souhaitent réaliser leurs films. Or, chaque réalisateur a des objectifs artistiques et commerciaux différents de ceux de son voisin. Ken Loach n'a pas les mêmes objectifs en termes de films que Quentin Tarantino. Et les objectifs de Tarantino ne sont pas les mêmes que ceux de Michael Bay. Pourtant, tous réalisent des films. Tous réalisent les films qu'ils veulent réaliser, de la manière dont ils souhaitent les réaliser. Et donc ont su adapter un modèle économique à leur façon de concevoir le cinéma. Van Sant, lui, sait qu'il a besoin d'une forme de liberté exacerbée au moment de passer en salle de montage. Il sait que ses films, en tout cas ceux de cette période, se jouent à cet instant, devant le moniteur de contrôle de son logiciel de montage. Il est donc primordial pour lui de se défaire des contraintes d'une production qui le cadenasserait trop, comme ce serait le cas à Hollywood, où le film est écrit, puis tourné et enfin monté en fonction du scénario original. Un scénario la plupart du temps stéréotypé où chaque personnage, chaque action est pensé en profondeur afin de servir l'intrigue dans un système de préparation-paiement qui, s'il a fait ses preuves, montre à mon sens trop souvent ses limites. Il est également primordial, et cela va de pair, de s'associer à une équipe artistique et technique force de proposition. Et sur ce point, Van Sant excelle, qu'il s'agisse d'amateurs n'ayant jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma, comme les jeunes Gabe Nevins et Taylor Momsen pour Paranoid Park, ou les comédiens reconnus ayant travaillé avec d'autres grands cinéastes comme Michael Pitt sur Last Days. Écoutons d'ailleurs sans plus attendre le morceau Death to Birth, composition de Michael Pitt joué guitare-voix sur le tournage de Last Days et qui donnera une épaisseur toute particulière au personnage de Blake, assurément la chanson la plus triste du monde.
Thank you. last of the last, the gasp left on this earth. Oh, 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 it's a long, lonely journey from death.
Écoutez toujours Cinéma Cinéma sur RDWA, RDWA.fr, 107.5 FM. Le cinéma de Gus Van Sant est un cinéma qui se nourrit énormément d'influences extérieures, nous l'avons vu. Qu'il s'agisse d'œuvres qui ont marqué le réalisateur de Portland ou d'artistes qui gravitent autour de lui et participent à l'élaboration de ses films. Mais il y a un élément qui me semble primordial, qui est à mon sens le moteur même de la carrière de Van Sant. Pour le comprendre, il faut remonter à son premier long métrage, Malanoche, réalisé en 1985 et réédité en 2006, et qui va poser les bases de toute sa filmographie. Malanoche est l'adaptation du journal de Walt Curtis. Il raconte l'histoire de Mike, un épicier de Portland qui tombe follement amoureux de Johnny, un client mexicain plus jeune que lui. À la moitié du film, une séquence particulière. Mike et Johnny font une virée en voiture, Mike s'arrête pour pisser si je me souviens bien. J'ai prêté le DVD du film à un ami et je ne peux pas vérifier. Je vous demande donc de me croire sur parole. De toute façon, si ce n'est pas pour pisser, c'est pour regarder le paysage ou pour une autre raison. Lorsqu'il revient à la voiture, Johnny lui vole ses clés et s'enferme à l'intérieur de l'habitacle. Il démarre et s'éloigne, laissant Mike seul sur la route. Puis il s'arrête. Mike le rejoint et Johnny redémarre. Il s'arrête de nouveau un peu plus loin et s'installe sur le toit de la voiture, attendant Mike, et ainsi de suite, redémarrant chaque fois que Mike s'approche suffisamment pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Cette séquence, ces quelques minutes passées sur une route de l'Oregon, c'est le cinéma de Van Sant. Je m'explique. Si on regarde attentivement la filmographie de Van Sant, on constate qu'elle est composée de plusieurs séquences de 3 à 5 films. Dans chacune de ces séquences, Van Sant semble chercher à s'approcher de quelque chose, une forme de cinéma qui l'attire. Et chaque fois qu'il parvient à en capter l'essence, qu'il touche enfin à la forme qu'il cherche, sa carrière prend un nouveau tournant et il doit recommencer sa quête. La première partie de sa carrière, c'est le temps du cinéma indépendant. Le temps des films autoproduits ou pas loin. Le temps des citations, de la copie, des influences assumées. Cette période commence donc avec Malanoche, puis continue avec Drugstore Cowboy en 1989. Dans ce film, Van Sant s'affirme comme admirateur de William Burroughs. L'écrivain y jouera d'ailleurs le rôle d'un prêtre toxicomane qui prend le personnage de Matt Dillon sous son aile. Les grands thèmes sont là. La route, la drogue, l'influence de romans comme Junkie. Le cinéaste se dessine doucement. Le film suivant, et nous en avons déjà parlé, va plus loin dans cette recherche formelle, dans cette exploration de thèmes particuliers. My Own Private Idaho parle d'homosexualité, de Portland toujours, et pousse plus loin la recherche de Van Sant dans son processus d'imitation et de copie avec l'assimilation du cinéma de Wells, des personnages shakespeariens et l'affirmation d'autres influences très présentes, notamment le photographe William Eggleston et ses paysages américains à l'abandon. Le dernier film de cette période, Ivanko Girl Get the Blues, l'adaptation du roman de Tom Rubins, est quant à lui un raté complet dans les grandes largeurs. Les thèmes sont toujours là, mais Van Sant est maladroit, ne trouve jamais son film. Bruce lui-même le met pourtant en garde dès le début du film, dans une brève apparition, prémonitoire, où il trouve le ciel menaçant. Van Sant n'y est plus. Il a atteint une limite et un point de bascule avec My Own Private Idaho, à mon sens un de ses trois plus beaux films, et il est temps pour lui de passer à autre chose, de chercher son cinéma ailleurs. Ailleurs, ce sera à Hollywood, à l'opposé du système indépendant dans lequel il travaillait jusqu'alors. Van Sant part là aussi pour une série de quatre films, insignifiant en ce qui concerne To Die For, il devient un brin pompeux dans Will Hunting, le film le plus mainstream de sa carrière. On peut lui reconnaître une certaine efficacité, un scénario ficelé qui ravirait les scénaristes en quête d'histoire organique, un beau film pour faire pleurer dans les chaumières et une histoire plan-plan, gentille et bien menée. Le film fonctionne et c'est tout ce que les studios lui demandaient. Il aura pour mérite de lui faire croiser Matt Damon qu'on retrouvera dans le beaucoup plus inspiré et beaucoup plus confidentiel Jerry quelques années plus tard. Will Hunting, c'est tout ce qu'Hollywood fait de pire et c'est bien fait. 9 nominations aux Oscars, 2 prix, meilleur second rôle pour Robin Williams et meilleur scénario original, le casse du siècle. Derrière, Van Sant s'offre son caprice avec Psycho, qui aurait été un remake s'il avait eu une substance, mais qui n'a, comme j'ai déjà dit, à mon sens d'intérêt qu'en cela qu'il permet au cinéaste d'éprouver son principe d'imitation jusqu'au bout et d'en saisir ses limites. Enfin, Van Sant clôturera l'aventure californienne avec un quatrième film, À la rencontre de Forrester. Ce dernier est le même que Will Hunting, en moins bien. On remplace un surdoué des mathématiques par un surdoué de la poésie et roule ma poule, sauf que ça ne marche pas, si Will Hunting permet de passer un bon dimanche soir, À la rencontre de Forrester est tout bonnement indigeste. Van Sant a fait le tour de la question, son cinéma se déplace un peu plus loin, à la manière de Johnny qui remonte dans la voiture et s'éloigne un peu de Mike, pour voir si celui-ci peut faire l'effort et s'il a vraiment envie de le rattraper. Et heureusement, Van Sant veut le rattraper, il s'attelle à ce qui va constituer la plus belle partie de sa filmographie. Tout d'abord une trilogie, inspirée de faits divers. Jerry qui présente deux hommes perdus dans le désert, Last Days, dont j'ai déjà longuement parlé sur les derniers jours de Kurt Cobain, ou d'une autre rockstar, et Elephant, inspiré de la tuerie du lycée de Columbine. Van Sant affirme son cinéma, ses travelling, ses plans séquences, ses personnages d'ado, ses focales longues, ses montages entremêlés où la dimension chronologique s'efface. Le Festival de Cannes lui décerne sa palme d'or pour Elephant en 2003. Il devait réaliser 3 films et reprendre la route, comme les personnages de Last Days le disent dans la dernière séquence du film. Il apprendra pour retourner à Portland, là où tout a commencé. Il vient de lire un roman pour ados, Paranoid Park de Blake Nelson. Il veut l'adapter. Et là, attention, chef-d'œuvre. Tout Van Sant est dans ce film. Je me souviendrai toute ma vie de l'impression que j'ai ressentie en sortant de la salle de cinéma après avoir vu ce film. J'étais avec un copain et nous avons marché de longues minutes sans nous parler. On avait besoin de digérer, de comprendre qu'on avait vu un objet qui justifie à lui seul le fait de voir des films en salle. Un personnage d'ado, du skate, des images oniriques tournées en Super 8, la photographie colorée de Christopher Doyle, un thriller qui tourne sur lui-même, enfermant son personnage principal dans le déni, un film qui s'articule autour d'une séquence, comme souvent chez Van Sant, placée au milieu du film, à la seconde près, la gravité gore de l'accident, du moment où Alex tue un agent des chemins de fer, contrebalancée par la musique envoûtante d'Ethan Rose. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film, et je remercie Van Sant d'avoir transformé sa trilogie en tétralogie, d'avoir ajouté cet objet parfait, tout comme je le remercie d'avoir su, cette fois, ne pas faire le film de trop. Après Paranoid Park, Van Sant reprend un autre chemin. Et puisque je parlais d'Ethan Rose, je ne résiste pas à l'envie de vous en faire écouter un morceau, Grand Marcher, issu de l'album Hawks. Vous écoutez toujours Cinéma Cinéma sur RDWA 107.5 FM, rdwa.fr et je parle toujours de Gus Van Sant. En 2008, Van Sant sort un biopic sur la vie d'Harvey Milk, figure politique des années 70, premier homosexuel élu à une haute fonction aux États-Unis, en l'occurrence un siège à la mairie de San Francisco. Il sera assassiné avec le maire de la ville par un opposant conservateur. Le film, agréable et prenant, porté par un Sean Penn de gala, réussit à prendre aux tripes, à faire mouche. Van Sant revient ici à une réalisation plus mainstream et conserve des éléments qui font maintenant sa signature. Il mélange les formats, mêle à la fiction des images d'archives. Le montage revient sans cesse à une séquence où Harvey Milk dicte une sorte de testament. La suite de sa carrière est à mon sens plus anecdotique. J'attends le prochain film qui me procurera autant de frissons que Paranoid Park. Je doute qu'il sorte un jour, mais j'espère. Pour les curieux, notons tout de même Restless, que j'ai trouvé bouleversant mais inégal, et ces deux derniers que je ne recommande pas, Promised Land et The Sea of Trees. En revanche, et avant de conclure ce premier numéro de Cinéma Cinéma, laissez-moi vous glisser quelques conseils de films, d'albums, de lectures. Bien entendu, pour commencer, mon top 3 des films de Gus Van Sant, My Own Private Idaho, Elephant et Paranoid Park. Vous pouvez aussi regarder Will Hunting un dimanche après-midi, ça passe toujours bien. Ensuite, quelques petites choses que j'ai pu citer ici et là et qui gravitent autour du travail de Gus Van Sant. Les auteurs Beat, William Burroughs en tête, je recommande particulièrement Interzone et Junkie. Pour les ados, Paranoid Park de Blake Nelson, dont est inspiré le film. Côté musique, allez jeter une oreille attentive à Ethan Rose, à Laura Gibson également, et puis plein d'autres choses. Les photos de William Eggleston, mais également de Nan Goldin. Et puis des tas d'autres films à explorer, à voir juste parce qu'ils sont beaux. J'ai cité Dead Man de Jim Jarmusch, des tas d'autres renvois de près ou de loin à Van Sant. Regardez Fish Tank d'Andrea Arnold, qui vient de sortir American Honey, que je n'ai pour l'heure malheureusement pas pu voir. Les films de Xavier Dolan également, notamment Mommy, qui même s'ils sont à mon sens moins sincères et moins beaux que ceux de Van Sant, s'en inspirent et le revendiquent. Pour ma part, je vous souhaite de passer une belle journée sur l'antenne de RDWA et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un second numéro de Cinéma Cinéma où je vous parlerai cette fois de road movie. Bonne journée à tous et on se quitte en musique avec les Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, titre dont Gus Van Sant a signé le clip.
And I don't ever